L'objet du délit, la nouvelle comédie de et avec Agnès Jaoui, Daniel Auteuil et Eya Hidara.
C'est les noces, c'est joyeux, ça doit être léger, ça doit chuchoter. Et puis après ça explose.
Découvrez l'envers du décor d'un opéra moderne.
C'est la première fois pour tout le monde, c'est parfait. C'est parfait, c'est la preuve que ça va bien se passer.
L'objet du délit, actuellement au cinéma.
On n'avait que 23 ans quand vous avez décidé de vous retirer de la vie politique. Ce qui vous fait un point commun avec Lionel Jospin. Le seul peut-être, car je n'ai pas de souvenir de l'ex-premier ministre en train de cloper avec des SDF ou de glisser un bulletin dans une urne avec un jeté de cheveux l'oréalesque. Une icône, vous dis-je. Vous êtes ressorti intact des années Sarko. En même temps, vous n'étiez pas trop dans le moule pour le mariage civil entre personnes du même sexe, mais contre l'adoption ou la PMA, contre le droit de vote des étrangers, mais pour Nuit Debout, à tel point qu'on ne savait plus si vous étiez une gauchiste de droite ou une droitiste de gauche. Une légende. Vous êtes la seule personnalité qui a participé au Lib Dub de l'UMP à avoir encore une actu avec Gilbert Montagné qui vient de sortir un album et Laurent Wauquiez qui raconte sa vie sur les réseaux.
Je vous emmène en Haute-Loire. La neige vient de tomber, on est sur un de mes endroits préférés. C'est le Mézin, à côté des Estades.
Oui, Laurent, bah c'est sympa, mais on n'a pas le temps. Une semaine que j'attends votre venue, qui était enrobée d'un intrigant mystère, je dois l'avouer. Quand j'ai demandé le motif de votre invitation, j'ai reçu pour seule réponse, parce qu'elle le vaut bien. Ça vous poursuit, cette histoire de coiffure. Hein. Bon, c'est vrai que niveau actu, vous concernant, vous n'occupez pas beaucoup de place sur les serveurs. Hein. Si on fait une recherche Google en tapant NKM, c'est pas vous qui faites fondre la banquise, ce qui est assez cohérent pour une ancienne ministre de l'écologie. La première occurrence, quand on tape votre nom, véridique, c'est le salon NKM Coiffure à Guérande, rue de Bizienne, dont la page annonce. Un vrai coup de frais chez NKM Coiffure. Transformation, brillance et style sur mesure, tout est dans le détail.
Ouais,
ça vous colle à la peau. Hein. Finalement, vous êtes ici pour apporter votre soutien à Édouard Philippe, donc vraiment rien à voir. Et pour moi, vous rencontrer ce matin, c'était l'équivalent pour vous d'un trajet sur la ligne 13 du métro à un moment de grâce. Et je vous en remercie parce que vous le valez bien.
Et merci Bertrand Chameroy. Vous écoutez la grande matinale d'Inter, il est 8h01. Et c'est le grand journal d'Hélène Philippe. Bonjour.
Bonjour. Ils ont rendez-vous avec l'espace. Thomas Pesquet et Arnaud Prost. Nouveau départ annoncé pour deux astronautes français en 2027. Vers l'ISS pour le premier, une station privée pour le second. On verra que c'est visiblement l'avenir. Le million de jeunes inscrits sur Parcoursup saura à quoi s'en tenir ce soir. Quelle formation pour l'après-bac ? Toujours du stress malgré les efforts de la plateforme. La une, c'est aussi l'Ukraine, frappée de nuit comme de jour par la Russie. Violente attaque de missiles ces dernières heures. Les habitants de Kiev redescendent dans les couloirs du métro. L'enquête sur la disparition de Liana dans le Gers. Un homme est mis en examen depuis hier soir. Le projet de loi agricole voté aujourd'hui à l'Assemblée. On verra ce qui a bougé. Et puis l'équipe de France de foot profite à plein du succès du PSG. Ses joueurs arrivent à Clairefontaine, gonflés à bloc pour préparer le mondial.
À 8h20, il a retrouvé le goût d'écrire des histoires. Grand entretien exceptionnel avec l'écrivain Salman Rushdie, de retour avec la 11e heure, un recueil de nouvelles puissantes. Il n'avait plus écrit de fiction depuis son attaque au couteau en 2022. On est très heureux de le recevoir. Rendez-vous dans 20 minutes.
France Inter.
Sophie Adnot n'est pas redescendue sur Terre. Que la France s'offre donc un nouveau séjour dans l'espace. Accord signé entre Paris et l'entreprise spatiale américaine Vast. Et ce n'est pas un, mais deux astronautes qui tutoieront les étoiles. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Spécialiste science à la rédaction de France Inter. Deux Français, Arnaud Prost et le très populaire Thomas Pesquet qui s'y colle une troisième fois.
Oui, il avait déjà le record du temps cumulé dans l'espace pour un Européen. Mmh. Il sera le premier à compter trois séjours dans la station spatiale. International, même si avant lui, un autre Français, Jean-François Clairvoy, a mené trois missions spatiales à l'époque dans la navette américaine. Ce vol sera court, environ deux semaines. Il se fera en partenariat avec la NASA, mais l'entreprise Vast, à qui le CNES achète en quelque sorte un siège, propose de lui confier le rôle de commandant du vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Ce serait une première, mais donc pas avant l'été 2027. Arnaud Prost, 33 ans, est encore inconnu du grand public. Il était jusque-là astronaute réserviste, mais vous verrez qu'il a lui aussi toutes les chances de briller. C'est un ingénieur de l'armement, pilote de chasse, polytechnicien, un garçon sélectionné en même temps que Sophie Adnot il y a 4 ans, qui nous était apparu à l'époque très accessible, très sympathique. Lui va réaliser une première pour un Européen, le séjour dans une station privée, Haven 1, que développe en ce moment la start-up américaine Vast.
Et c'est l'avenir, ces stations spatiales privées ?
Oui, puisqu'on sait que l'ISS doit fermer fin 2030. La NASA a lancé il y a quelques années un appel d'offres au secteur privé, comme elle l'avait fait pour les lanceurs, ce qui a conduit notamment à l'émergence de SpaceX. Vast, créé en 2024, s'est mise sur le marché, comme d'autres jeunes pousses, avec l'ambition de créer des stations accessibles aux astronautes professionnels, mais aussi aux non-professionnels, des personnes qui travailleraient pour des universités, des entreprises, des laboratoires. Alors Arnaud Prost va séjourner lui aussi 15 jours dans la toute première version. Ce sera un bidon de 45 mètres cubes. Vast annonce l'an prochain, ce sera l'an prochain, mais son calendrier a déjà 2 ans de retard. À terme, cette entreprise qui va installer son siège européen en France veut bâtir Haven 2, une copie de l'ISS, aussi grande mais plus moderne.
Merci beaucoup Sophie Becherel. La France qui est désormais le seul pays européen à compter 3 astronautes en activité. Et vous pouvez d'ailleurs réécouter l'interview de Sophie Adnaud depuis l'ISS diffusée hier matin, disponible sur l'application Radio France, source d'inspiration pour la jeunesse. Mais pour caresser l'espoir de suivre l'exemple de ces astronautes, il faut s'y mettre maintenant et sortir de ce qui est devenu un fléau, la sédentarité. Les adolescents ne font pas assez ou plus d'activité physique à une écrasante majorité, jusqu'à développer des pathologies normalement observées chez des personnes bien plus âgées, Victor Delande.
Du cholestérol, du surpoids et du diabète de type 2 avant 15 ans, des infarctus du myocarde à partir de 30 ans contre 45 il y a 20 ans. Célia Lioré-Linares, endocrinologue et nutritionniste en Haute-Savoie, voit de plus en plus de jeunes adultes en consultation avec ces pathologies et les causes sont bien connues.
La sédentarité s'inscrit dans un environnement qui est favorable à la prise de poids, moins de mouvement, davantage de temps d'écran, moins de sommeil et une exposition permanente à des aliments ultra transformés. Et c'est cet ensemble qui va contribuer aux anomalies métaboliques et à la prise de poids.
Elle est d'autant plus inquiète qu'elle n'a pas toujours la solution pour ces jeunes malades.
Il y a assez peu d'options thérapeutiques vis-à-vis de ces maladies sévères. Il s'agit d'une maladie développée tôt, donc on peut suggérer qu'elle soit plus résistante à des approches classiques de diminution, de contrôle des apports alimentaires et d'activité physique.
Elle mise donc sur la prévention de l'activité physique, oui, mais dès le plus jeune âge. Elle propose aussi de s'appuyer davantage sur les médecins généralistes qui suivent au long cours les patients et qui doivent contrôler plus souvent l'indice de masse corporelle dès l'âge de 2 ans.
Et sur la question de la santé mentale des jeunes, le gouvernement promet une politique plus forte et notamment un système de coupe-fil pour obtenir un rendez-vous dans les 24 à 48 heures en cas de trouble, si le besoin s'en fait sentir, annonce de la ministre de la Santé Stéphanie Rist chez nos confrères de France Info ce matin. Un temps d'attente toujours plus long aux urgences, le même ministère de la Santé le confirme dans ses derniers chiffres, à toutes les étapes de la prise en charge, la moitié des patients attend désormais plus de 3h10 entre leur enregistrement et leur sortie de l'hôpital. C'était 2h15 il y a 10 ans.
8h07 sur Inter, de jour comme de nuit.
La Russie frappe l'Ukraine sans atteindre ses objectifs militaires au bout de 4 ans et demi de guerre, mais en faisant toujours des victimes civiles. 9 cette nuit, des dizaines de blessés dans plusieurs villes du pays. Notre correspondant à Kiev, Lucas Lazo, a passé la nuit avec les habitants réfugiés dans le métro. Certains y redescendaient pour la première fois depuis longtemps.
À 70 mètres de profondeur, dans les entrailles de la station de métro Théâtralna, il est 1h du matin. Par petits groupes, des habitants du quartier s'installent sur les quais. Les plus prévoyants déplient leur lit de camp. Alona, 24 ans, feuillette les pages de son roman pour tuer l'ennui.
Je préfère dormir dans mon lit avec des boules qui essaient et faire comme s'il n'y avait pas d'explosion. Mais je suis très anxieuse. Je me suis dit, d'accord, je descends dans le métro, mais d'habitude, je n'y vais pas.
Une angoisse ravivée par les frappes russes massives du dimanche 24 mai sur la capitale ukrainienne.
C'était l'attaque la plus dure. J'étais dans ma salle de bain, c'était très effrayant. Je n'ai pas dormi avant 6 heures du matin.
1h35, les sirènes se déclenchent. Allongé sur un tapis de gymnastique, Ioanni a cette fois-ci anticipé l'attaque.
La dernière fois, mes fenêtres ont été soufflées. Alors maintenant, j'apprends de mes erreurs. Je me suis préparé parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Telegram, sur WhatsApp, et on voit que les bombardiers commencent à décoller.
2h15, les premières explosions résonnent dans le ciel de Kiev. Plusieurs salves de missiles se succèdent jusqu'à l'aube. Dans le métro, les yeux rougis rivés sur leur téléphone, les habitants découvrent avec stupeur les premiers bilans de cette attaque.
Reportage Lucas Lazo à Kiev. Les hostilités n'ont pas cessé entre Israël et le Hezbollah libanais. Malgré l'intervention hier de Donald Trump et la pression mise sur le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, complètement fou, juge le président américain qui ne parvient pas plus à signer un accord de paix avec l'Iran. Quand l'Union européenne ouvre la voie à des centres de retour de migrants en dehors de ses frontières, poussés par la droite et l'extrême droite, système déjà testé par l'Italie en Albanie, expulsés avant même que leur demande d'asile soit examinée, contrairement à ce que prévoit la nouvelle loi européenne, la France sceptique face à un tel durcissement de la politique migratoire, l'Espagne y est clairement opposée. La France ou la loi d'urgence agricole s'apprête à passer un premier cap aujourd'hui, soumise au vote des députés. Après des discussions marathons et animées, Maria Melchiordi, le gouvernement a d'ailleurs subi plusieurs déconvenues.
Oui, les dernières heures de débat laissent un goût de revers pour l'exécutif. Plusieurs amendements de la France insoumise, avec le soutien du RN d'ailleurs, ont été adoptés contre l'avis du gouvernement. Parmi ces mesures, l'instauration de prix planchers dans les négociations commerciales entre les agriculteurs et les industriels. Ces prix doivent couvrir les coûts de production au sens large des exploitants. Une mesure défendue de longue date par la Confédération paysanne et qui va plus loin que les ajustements non contraignants proposés dans le texte initial. Autre revers, la priorité aux aliments produits sur le territoire français dans les cantines ou encore l'interdiction d'importer des produits traités avec des pesticides prohibés en France et non plus en Europe. Une disposition contraire au droit européen selon le gouvernement.
Et le gouvernement a tout de même obtenu des avancées réclamées par les syndicats majoritaires.
Oui, parmi les avancées pour le gouvernement, l'assouplissement des conditions d'installation ou d'agrandissement de nouveaux bâtiments d'élevage. Mesure saluée par Jean-Michel Schaeffer, représentant de la filière volaille.
En France, les seuils qui déclenchaient toutes les études d'impact, les enquêtes publiques étaient deux fois inférieurs aux seuils européens. La règle française va s'aligner sur la règle européenne.
Autre victoire pour l'exécutif, le volet. Le texte facilite le stockage de l'eau pour l'agriculture, notamment via le système controversé des méga-bassines, en supprimant l'obligation préalable de réunion publique.
Maria Melchiordi, l'unanimité des 187 députés pour la proposition de loi née du scandale Betaram sur les violences scolaires. Hier soir à l'Assemblée nationale, le texte renforce le contrôle des intervenants susceptibles d'être au contact des enfants, sans lever le secret de la confession qui faisait débat. Ils sont plus d'un million d'élèves à se ronger les sangs ce matin. Date cochée depuis longtemps dans le calendrier, presque plus importante que le bac désormais. Parcoursup donne ses premières réponses. La plateforme permet aux lycéens de savoir dans quelle formation ils seront acceptés l'année prochaine. Et malgré les promesses de transparence, elle reste synonyme de stress, voire de défiance, Laurélie Carrive.
Il y a 4 ans, Emmanuel Macron lui-même qualifiait Parcoursup d'usine à stress. Tous les sondages convergent, le moment est source d'anxiété. Anxiété pour 3/4 des parents, de stress pour 8 lycéens sur 10. La moitié déplore aussi un manque de transparence, des critiques récurrentes à laquelle la plateforme tente de répondre. Critères de sélection plus détaillés, calendrier resserré pour réduire l'attente. Il n'en demeure pas moins que Parcoursup demeure une psychose collective permanente. Observaient en février 2 députés, auteurs d'un rapport sur le sujet. Pour eux, l'opacité ne vient pas de l'algorithme national, qui est public, mais des algorithmes locaux dont se servent certaines formations pour trier les dossiers, sorte de boîte noire qui alimente les soupçons. Même constat du côté du comité éthique qui se penche chaque année sur le fonctionnement de Parcoursup. Il demande aux commissions d'examen des vœux d'expliciter davantage pourquoi elles ont refusé tel ou tel candidat. Mais en 8 ans, la défiance s'est solidement installée et Parcoursup devrait s'inviter dans la campagne présidentielle l'an prochain. LFI prône son abrogation et le RN la fin de la plateforme, au moins dans son fonctionnement actuel.
L'an dernier, 68% des futurs bacheliers avaient reçu une proposition dès le premier jour de la phase d'admission. Un homme de 41 ans est donc mis en examen depuis hier soir dans le Gers. Principal suspect dans l'enquête sur la disparition de la jeune Liana, 11 ans. Les parents sans nouvelles depuis vendredi dernier et sa sortie du collège, Charlotte Piret.
Sortie à 15h lorsque, selon un témoin, Liana accompagne un homme de 41 ans, père de deux enfants, dont une de ses amies, scolarisée comme elle dans ce collège Hubert Reeves, et chez qui Liana a déjà participé à une soirée pyjama. L'homme n'est donc pas du tout un inconnu pour la collégienne. Les images de vidéosurveillance de la petite ville de 6000 habitants montrent ensuite Liana assise dans la voiture du père de famille. Mais que s'est-il passé après? En garde à vue, à Auch, l'homme nie tout enlèvement, affirme avoir déposé Liana à la piscine. Des explications jugées incohérentes et imprécises par la procureure. Transféré à Agen, le suspect est ensuite resté mutique devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen dans la nuit pour enlèvement et séquestration de la collégienne. Cet homme au casier judiciaire vierge vient de passer sa première nuit en détention provisoire, alors qu'autour de la ville de Fleurance, les recherches se poursuivent avec les renforts d'un escadron de gendarmerie. Ils sont 180 sur le terrain désormais, avec, selon les mots du colonel en charge, le temps pour principal ennemi.
Information signée Charlotte Piret. En Haute-Garonne, une collégienne de Villeneuve-Tolosane est en garde à vue après avoir frappé à coups de couteau une camarade hier. Elle est légèrement blessée. L'adolescente a reconnu les faits. Il y a quelques mois, elle-même avait porté plainte contre celle qu'elle a agressée pour harcèlement et violence. Cette enquête est toujours en cours.
8h15 sur Inter, enfin au complet.
Les Bleus du foot sont à Clairefontaine à 2 semaines de leur entrée en lice en Coupe du Monde. Les derniers renforts arrivant aujourd'hui, les 5 joueurs du PSG sélectionnés pour le mondial. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Lucas Hernandez. Et ça va motiver tout le groupe, Xavier Monferrand.
Ils n'ont pas beaucoup dormi et l'aventure ne fait que commencer avec les Bleus pour les Parisiens qui vont rejoindre leur coéquipier à Clairefontaine et plonger dans le chapitre suivant, la Coupe du Monde. Avec le sourire, c'est peu de le dire, soulever la Ligue des Champions, c'est une consécration et c'est un moteur pour la suite qui va rejaillir sur tout le groupe pour l'ancien gardien du PSG et consultant de Radio France, Jérôme Alonso.
Mais forcément, dans le collectif, ça va compter beaucoup parce que ça amène encore une autre émulation, parce que c'est des gars qui vont être joyeux, qui vont être heureux, qui vont être sûrs de leur force, un petit peu fatigués. C'est vrai, mais oui, évidemment, d'avoir des joueurs du PSG qui ont encore gagné avec des champions, évidemment, pour tout le groupe, c'est d'une importance capitale.
Cette victoire parisienne, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Enfin presque, Jérôme Alonso s'interroge sur la réaction d'un joueur, et pas des moindres.
C'est Kylian Mbappé qui quitte le PSG et à ce même moment, le PSG gagne 2 Ligues des Champions et son Real Madrid ne gagne plus rien. Ça par contre, je suis curieux de voir comment lui va gérer ça.
Et les premiers mots du capitaine des Bleus ne devraient pas tarder. Dès demain, si c'est bien lui qui se présente en conférence de presse à Nantes à la veille du match de la France contre la Côte d'Ivoire.
Et j'en profite pour vous dire qu'il y a une journée spéciale demain, foot pour tous, et que Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleu sera l'invité d'un grand entretien élargi.
Exactement.
Ici même, avec vos questions, Florence, mais aussi celles de jeunes joueurs. Et il y en aura pour tout le monde, hein, toute la journée, jusqu'au téléphone sonne, pour parler football, l'expliquer aussi à ceux qui ne l'aiment pas.
Merci, Hélène Philly, ça arrive, c'est vrai. Merci, la météo à suivre.
La météo avec CNP Assurance. Jour après jour, avec CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert.
Marie-Pierre Planchon, c'est le retour de la pluie et des orages.
Et oui, Florence, la perturbation arrivée par la Bretagne hier soir va traverser le pays d'ouest en est. Alors ce matin, les pluies sont parfois copieuses, orageuses de l'Aquitaine au nord de la Seine. Un soleil voilé résiste encore de la Méditerranée à l'Alsace ce matin, mais les pluies orageuses vont s'inviter cet après-midi sur toutes les régions de l'est, de l'Alsace à la Corse. Les orages seront parfois forts, accompagnés de grêles, de fortes rafales de vent jusqu'à 90 km/h, notamment sur les Vosges, le Jura, la vallée du Rhône jusqu'aux Alpes, avec peut-être une vigilance à la clé à surveiller. Sur la région PACA, on aura aussi de bons cumuls de pluie sous les orages. Et puis sur le nord-ouest, un ciel plus changeant va s'installer avec des éclaircies et quelques averses. Cet après-midi, de petites éclaircies aussi se dessineront des Pyrénées en remontant vers le nord de la Seine. Mais les averses seront encore orageuses, elles resteront au programme. Et le vent d'ouest qui va souffler jusqu'à 60 km/h sur la moitié nord et la tramontane 70.
Et ça va nous faire tout drôle cet après-midi, Marie-Pierre, parce que les températures vont baisser.
Oui, et cette amplitude d'ailleurs va nous fatiguer, hein, le corps. En prend en chair à ce moment-là. Globalement, cette semaine, les températures minimales comme maximales se situeront à des niveaux proches des normales de saison. Alors donc, ce matin, on avait quand même des valeurs contrastées entre les 9 à Dambach dans le Bas-Rhin, 18 à Paris et 22 à Béarn. Et cet après-midi, au meilleur de la journée, il fera 18 seulement à Saint-Brieuc et Rouen, 19 à Lille, Paris ou Pontarlier, encore 22 à Strasbourg et Auxerre, comptez 23 à Lyon, 25 à Argelès-sur-Mer, 26 à Nice et même 27 à Ajaccio. En se rappelant ce dicton paysan, s'il tonne au mois de juin, année de paille et de foin.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Eh ben oui.
Ben, très bien. Merci voilà. Marie-Pierre, voici Géopolitique.
La grande matinale. Listen anywhere. Sur France Inter.
Bonjour Pierre Aski.
Bonjour Florence.
Ce matin, l'escalade de la guerre au Liban et ses conséquences.
Une nouvelle fois, le sort du Liban n'est plus entre ses mains. Ce pays du Levant a souvent été dans son histoire le théâtre des guerres des autres. Il est aujourd'hui au cœur de la complexe équation guerrière entre l'Iran, Israël et les États-Unis. En 24 heures, les enchères ont monté dans le volet libanais des guerres qui déstabilisent le Proche et le Moyen-Orient. Israël a ordonné hier l'évacuation de la banlieue sud de Beyrouth, quartier chiite et fief du Hezbollah, en prévision de bombardements. Mais cette escalade a déclenché une riposte iranienne. Téhéran a suspendu ses négociations avec les États-Unis en invoquant la reprise de la guerre au Liban par Israël. Résultat, une accélération diplomatique hier soir dans laquelle Donald Trump a imposé à Benjamin Netanyahou de renoncer à frapper Beyrouth, affirmant que le Hezbollah avait lui aussi accepté de cesser les combats. Dans cette confusion totale, Trump a semble-t-il sauvé sa négociation avec l'Iran, sa seule porte de sortie de cette crise du Golfe, mais au passage, il crée une situation politiquement vertigineuse.
Pourquoi vertigineuse ?
Alors, les Iraniens savent que Trump veut en finir avec la guerre dans le Golfe et ils poussent leur avantage. Ils ont déjà obtenu une première fois un cessez-le-feu au Liban en avril, contre l'avis de Netanyahou, grâce aux pressions américaines. Ils ont voulu récidiver, une manière aussi d'enfoncer un coin entre Trump qui veut un accord et Netanyahou qui veut aller au bout. Et de fait, selon Barak Ravid, le journaliste le mieux informé sur le Moyen-Orient pour le site américain Axios, l'entretien téléphonique entre Trump et Netanyahou a été orageux. Le président américain aurait qualifié le premier ministre israélien de « complètement cinglé », lui a dit que sans lui, il serait en prison et que le monde entier déteste Israël. Pour limiter la casse après ce récit ravageur, Trump a remercié dans la soirée Netanyahou d'avoir renoncé à attaquer Beyrouth. « Merci Bibi », a-t-il tweeté en utilisant le surnom du premier ministre israélien.
Mais c'est quand même un soulagement pour le Liban.
Alors pour les Libanais, Florence, c'est à double tranchant. Si ces manœuvres diplomatiques marchent, ce qui reste à confirmer, ils profiteront de l'arrêt de l'offensive israélienne, au moins à Beyrouth. Mais ils devront ce répit à l'Iran, et ce sera un bénéfice politique direct pour son allié, le Hezbollah. Beaucoup à Beyrouth pensent qu'il n'y a pas de bonne solution. Le Liban est perdant dans tous les scénarios, même s'il évite en effet le pire, avec la menace israélienne de détruire une partie de Beyrouth après avoir rasé des villages entiers dans le sud. Mais le gouvernement libanais fera face à son éternel dilemme. Il veut en finir avec l'existence d'un Hezbollah armé qui décide de la paix et de la guerre sans tenir compte des intérêts du Liban, mais il n'a pas les moyens ou la volonté de mettre en œuvre ses décisions. Il négocie directement avec Israël, mais ce ne sont pas ces négociations qui auront freiné l'État hébreu, c'est l'Iran. Le paradoxe tragique est donc que si l'Iran obtient l'arrêt partiel de la guerre au Liban, cela affaiblira le premier gouvernement depuis longtemps qui était décidé à changer la donne dans le pays. Une conséquence néfaste de plus de cette guerre hasardeuse déclenchée par Donald Trump.
Merci Pierre Aski. Dans un instant, le grand entretien avec l'écrivain Salman Rushdie.
Proclamons la guerre !
C'est la volonté de Dieu ! C'est la volonté de Dieu !
Les croisades. Pourquoi voulait-il donc aller à Jérusalem ?
France Inter, 14h50, Stéphanie Duncan.
Du 11e au 13e siècle, des milliers de guerriers et de paysans ont quitté leurs châteaux et leurs villages d'Occident pour aller à Jérusalem, cette ville sainte du bout du monde dont ils ignoraient tout. J'en parle avec l'historien Sylvain Guggenheim.
Le fil de l'histoire.
C'est tous les jours à 14h50 sur France Inter.
Le CIC présente Chronique entrepreneuriale.
Chef d'entreprise, je peux t'aider à prendre le lead sur le recrutement des best talents du marché avec un happiness management premium qui insufflera un esprit d'équipe ultra positif et efficient qui boostera l'appétence de tes employés pour leur job. Même nul.
Sinon, au CIC, on propose des solutions concrètes pour faciliter le recrutement des entreprises et la fidélisation de leurs employés. Par exemple, une offre de prévoyance et de santé collective qui les aide à faire face aux aléas de la vie.
C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC.
Contrat de ACMIA RDSA et ACMVSA, entreprise régie par le Code des assurances, conditions en agence et sur CIC.fr.
8h23.
France Inter, Benjamin Duhamel, Florence Paracuelos. La grande matinale.
Un grand entretien exceptionnel ce matin avec l'auteur des Enfants de minuit, des versets sataniques et plus récemment du couteau, monument des lettres mondiales et figure de la défense de la liberté d'expression, visée en 1989 par une fatwa du régime iranien et victime d'une attaque au couteau il y a 4 ans. Bonjour Salman Rushdie.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. Vos prises de parole sont rares. On a envie de vous entendre sur l'état du monde. Mais commençons par votre nouveau livre, La 11e heure, un recueil de 5 nouvelles poétiques et percutantes. Le précédent, c'était Le couteau. Il était autobiographique. Vous racontiez cette tentative d'assassinat dont vous avez été victime en août 2022. La fiction vous manquait, Salman Rushdie ?
Écoutez, je suis content de retourner dans le monde de la fiction. Parce que je ne voulais pas écrire d'autobiographie. Je suis devenu écrivain pour raconter des histoires. Et ça fait plaisir de retourner dans ce monde. Donc ce livre, c'était agréable à écrire.
Vous disiez, au moment du couteau, que vous n'arriviez plus à écrire de fiction. Tant que je n'aurais pas réglé cette histoire, celle qui m'est arrivée, je ne pourrais pas écrire autre chose. Voilà ce que vous disiez à l'époque. Maintenant, ça y est, vous êtes redevenu le conteur que vous étiez.
Yeah, I'm back.
Mais oui, je suis de retour, je suis de nouveau le conteur que j'étais. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'était un retour au véritable moi-même.
Et c'est un bonheur, Salman Rushdie, de lire ce recueil de nouvelles, La 11e heure, notamment dans une époque où la littérature contemporaine est obsédée, centrée par l'écriture de soi, par la mise en récit de sa propre vie, par l'autofiction. Vous, ce qui dénote particulièrement, c'est que vous restez un conteur. Il y a un amour des histoires, un amour de la fiction. Et c'est aussi pour ça qu'on prend autant de plaisir à vous lire de nouveau.
Mais savez-vous, justement, je ne m'intéresse pas tellement à moi-même, je m'intéresse plutôt aux autres. Et donc, j'essaye toujours de trouver des personnages intéressants dont je pourrais raconter l'histoire. Et j'ai la bonne chance d'avoir pu vivre dans différentes parties du monde. Et cela me permet de raconter des histoires qui ont lieu dans différents endroits, avec différentes réalités. Et dans ce recueil de nouvelles, vous avez des histoires indiennes, anglaises, américaines. Et c'est un petit peu une miniature de ma propre vie d'écrivain.
Est-ce que ça veut dire que ces trois continents, ces trois pays, l'Inde, le Royaume-Uni, les États-Unis ont construit votre identité d'écrivain mondial?
On peut dire ça, en effet. Vous savez, l'Inde, pour moi, a toujours été à la racine de tout. En ce qui me concerne, je trouve qu'il est assez difficile de raconter des histoires qui n'aient pas un aspect, disons, indien. Toutes mes histoires ont soit un personnage indien ou dans la diaspora indienne. Généralement, il y a un personnage indien en moi.
Parmi les...
Ça veut dire que la culture en Inde, c'est la culture du récit, du conte, des histoires ?
C'est en Inde que j'ai découvert l'art du récit, parce qu'il y a tout un patrimoine de contes, d'histoires, et lorsqu'on hérite de ce don quand on est gamin, eh bien, ça reste avec vous pendant l'âge adulte.
Parmi les thématiques qui traversent ces nouvelles, Salman Rushdie, il y a l'expérience de la vieillesse, l'expérience de la mort, notamment dans cette première nouvelle où l'on suit deux vieillards en Inde, dans la troisième où un écrivain se réveille mort et son fantôme continue à hanter l'université où il travaillait. Vous disiez tout à l'heure, mon histoire ne m'intéresse pas, mais elle intéresse évidemment nos auditeurs. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que votre rapport à la mort a changé alors que vous l'avez rencontré, Salman Rushdie?
Je crois que je peux répondre par l'affirmative, en effet, et ce pour deux raisons. D'abord, effectivement, j'ai effleuré, disons, la mort dans ma propre vie. Et puis, j'ai vieilli, disons, que je ne suis plus le jeune écrivain que j'étais autrefois, donc on pense davantage à ces questions. Mais je voulais quand même une certaine légèreté dans ce livre. Je ne voulais pas raconter un livre en disant « Ah, voilà, on va tous mourir ». Enfin, je ne voulais pas être tous trop sombre, parce que bien sûr qu'on sait qu'on va mourir, mais je voulais plutôt en faire une espèce de jeu, en tout cas quelque chose qui soit plus léger dans son ton.
Il y a beaucoup d'humour d'ailleurs entre ces deux vieillards de la première nouvelle de ce recueil. Vous les décrivez comme ça, vous dites qu'ils avaient 81 ans. Si le grand âge est un crépuscule qui s'achève à minuit, ils avaient déjà bien entamé leur 11e heure. Est-ce que ça veut dire que vous-même, Salman Rushdie, vous avez 78 ans, vous vous sentez dans cette 11e heure où on a encore envie de beaucoup vivre, de beaucoup écrire?
Non, I'm planning my 100th
birthday. Ah non, moi j'ai l'intention de fêter mon 100e anniversaire. Ça devrait être une source de joie.
So I think maybe
non,
alors,
disons que je suis peut-être à 9h30, pas 11h.
À 9h30, ça laisse encore pas mal de temps.
Ce qui est aussi magnifique, Salman Rushdie, c'est le rapport que vous entretenez à la liberté littéraire. Et on sent effectivement beaucoup de liberté que vous prenez pour écrire ces fictions, pour inventer ces personnages. Est-ce que c'est aussi une façon de peut-être d'embrasser cette valeur-là dans un monde où précisément la liberté est questionnée? Quel rapport est-ce que vous entretenez à la liberté littéraire?
Well, you know, freedom of speech, I'm in favor of.
Je suis toujours en faveur de la liberté d'expression, ça c'est la moindre des choses. Mais il me semble que la façon de présenter cela, c'est justement en écrivant les histoires les plus intéressantes que l'on puisse imaginer. Et de nos jours, les jeunes auteurs souvent sont sous pression pour ne décrire que leur petit monde dans lequel ils sont.